Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie en collaboration avec l'OIF, avec un grand voyage musical, culturel et littéraire. Nous parlerons des femmes en Orient avec le recueil de nouvelles de la grande écrivaine franco-algérienne Leïla Sebar. Elle évoque sans détour les conséquences du djihadisme sur la vie des femmes. Il sera question de littérature jeunesse avec Julien Delmer. Les contes traditionnels sont-ils dépassés? Sont-ils hors du temps? On posera la question et l'auteur revisite d'ailleurs les contes pour enfants avec un ourson très agité. Le musicien Nicolas Repac accompagne Julien Delmer pour une performance artistique en plateau. Vous entendrez et du slam et nous décrypterons ensemble ce moyen d'expression culturelle qui a conquis toute la francophonie. Et puis nous irons à Montréal avec un reportage sur les quais du port de la ville. Nicolas Reeves, auteur, chercheur et fils d'Hubert, sera notre guide à l'occasion des 150 ans du Canada. Pour commenter tous ces sujets, un grand témoin, la secrétaire générale de la francophonie. Bonjour Michaël Jean.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous
Merci.
Arrivez tout juste de New York.
Exactement.
Vous avez affronté la tempête de neige.
Ah oui. En fait, ça m'a replongé dans l'humeur boréale et cette fin d'hiver qui s'impose.
Oui.
Et c'était assez impressionnant. Hein.
Bon, merci en tout cas de nous accompagner tout au long de cette émission. Vous commenterez tous les sujets que nous aborderons en toute liberté.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie comme toujours. La bande des terreurs, Jérémy Lagniel au Canada et Grégoire Courtois en France sont en multiplex. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou.
Oui.
Tout va bien, c'est vous qui avez la neige maintenant, hein, du coup.
Exactement.
Ça s'est décalé.
Michael a quitté, j'ai gardé la neige.
Bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour.
Vous êtes libraire, vous, à Auxerre, dans la librairie Oblique.
C'est ça.
Tout va bien pour vous?
Tout va bien.
Très bien. Laura Sanchez est en Suisse, elle, à Genève, dans la librairie du Boulevard. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Et c'est Annick Dor qui représente la Belgique aujourd'hui, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Ça fait longtemps, dites donc, hein. C'était des bons.
Oui,
hein,
bah oui. Là, oui,
vous nous avez manqué quand même.
Bon. Ouais, oui.
Soyez les bienvenus tous les quatre. Bonjour Nicolas Repac.
Bonjour.
Vous avez repris des poèmes de Glissant, Césaire, Laferrière, René de Pestre et bien d'autres avec Arthur H. dans l'album et le spectacle L'Or Noir. Vous avez collaboré sur des albums de grands artistes africains, Mamani Keïta notamment, on écoutera un titre tout à l'heure. Et vous jouerez aussi du oudou pour accompagner un slam de Julien Delmer à cette table. Le oudou qui est posé justement sur le plateau, un instrument très étrange. On verra ça tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une anecdote personnelle. Vous avez carte blanche, Nicolas.
Je vais raconter quelque chose de simple. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontré avec Julien. C'était lors d'un voyage, mon premier voyage, mon seul voyage en Haïti.
Oui.
Et c'est mon arrivée. Bon, en fait, c'est un souvenir qui m'a marqué parce qu'on est allé, sorti de l'avion, on est à Pétionville et on est sorti de l'hôtel pour aller à une soirée poétique. Alors quand on est à l'étranger, comme ça, on est un peu perdu, c'était mon cas, je savais pas du tout où j'allais. Et puis on est rentré dans ce café, je crois qu'il y avait une soirée qui s'intitulait Poésie Salle.
Oui.
Donc avec un nom pareil, on pouvait s'attendre à pas mal de choses. Et je me suis assis, et là il y avait un grand gaillard, immense, avec une belle casquette, une belle guitare, dont le nom est Willy Saint-Louis-Jean. Et là, j'ai eu une interprétation, une des plus belles interprétations de Georges Brassens. Je m'y attendais pas du tout. Parce que, puisqu'on parle de francophonie, voilà, c'est ce souvenir qui me vient. Je crois que la chanson, c'était La Mauvaise Réputation.
Ah oui.
Et il en a donné une version, avec une voix de baryton, une énergie haïtienne. Enfin, pour moi, français, il y avait quelque chose de folklorique et j'avais jamais entendu Georges Brassens comme ça. Voilà. C'était juste.
Et Julien Delmer était pas loin de vous, je crois. Vous étiez là-bas?
Oui, j'étais dans la...
Bonjour
dans ce,
Julien.
Bonjour. J'étais dans ce café et c'était une soirée organisée par James Noël, évidemment.
Ah bah oui, qu'on connaît, bien sûr.
Dès qu'il y a un bon coup, c'est James Noël qui est derrière. Et c'est une soirée poème érotique. Et donc, il y avait la crème, il y avait Woolly, il y avait Mackenzie Orsay qui était là, il y avait Sito Cavé. Enfin, il y avait vraiment, voilà, la fine fleur.
Il y a toute la bande qui écoute la librairie francophone chaque semaine, je le sais. On les salue d'ailleurs. Et Michaël Jean acquiesce aussi, hein, vous les connaissez,
ces
auteurs.
Mais je peux imaginer cette soirée et puis cette tonalité, comme vous le disiez, très haïtienne. musicienne dans une réinterprétation d'un texte, mais une vraie appropriation aussi.
Ah, complètement.
Et puis là, vous aviez ce soir-là toutes les générations ensemble, dans une belle continuité de fureur de dire. C'est formidable, Haïti, pour ça aussi.
C'est un pays incroyable.
Nicolas Ropac, Julien Delmer et Mickaël Janson dans la librairie francophone cette semaine. Et on part tout de suite à Montréal. La journée internationale de la francophonie est marquée cette année par un double anniversaire. Les 375 ans de Montréal et les 150 ans du Canada. Nous sommes allés sur le port de Montréal pour un entretien déambulation avec Nicolas Reeves, qui a contribué au livre Carnet de Montréal, paru aux éditions du Passage. Le port, une porte d'entrée des francophones européens sur le continent américain. Voici le son du monde de la semaine, grand format. Voilà, on arrive au début du boulevard Saint-Laurent à Montréal, pas très loin du fleuve. Bonjour Nicolas Reeves.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est un endroit stratégique pour la ville de Montréal.
À plusieurs niveaux. D'abord parce que la rue Saint-Laurent est la rue qui sépare, qui marque la frontière entre l'est et l'ouest de la ville. Et ici, par exemple, on est à proximité du port de Montréal, qui a longtemps été le plus grand port fluvial de la planète.
Alors, on va découvrir, on va se balader, Nicolas Reeves. Je rappelle que vous êtes architecte et physicien, professeur à l'école de design de l'UQAM à Montréal. Ouais. Attendez, on traverse, on ne va pas se faire renverser quand même.
Ah, il faut traverser, ça.
Il faut s'engager. Vous dirigez un laboratoire de recherche et de création en informatique, architecture et design, et vous exposez des œuvres monumentales à l'étranger. Montréal, c'est un peu pour vous la base, le point de départ de vos voyages ?
Ah, tout à fait. Je pense que Montréal peut très bien être décrite de cette façon. C'est assez stratégique pour visiter, je dirais, le monde. Il est très difficile de comprendre comment Montréal s'est construite si on ne l'aborde pas de façon fluviale, en considérant que tout le territoire québécois, en fait, a été colonisé d'abord par le fleuve.
C'est ici que partaient pour Le Havre des bateaux, en fait, qui partaient du Canada. Et le Canada se développe économiquement à partir de 1896, grâce notamment à ce port, Nicolas Reeves.
Oui, essentiellement, en fait, une des raisons pour lesquelles Montréal était aussi importante, c'est que juste après, juste à l'ouest, le fleuve rencontre des rapides. Et donc les bateaux, les gros bateaux ne pouvaient pas aller en amont de Montréal, donc devaient impérativement débarquer ici leur cargaison, d'où ces immenses élévateurs à grains qui permettaient justement de charger et de décharger rapidement. Et à partir de là, les marchandises étaient transportées par voie ferroviaire, peut-être par voie routière, vers les grands lacs. Dans les années 60, le creusement de la voie maritime du Saint-Laurent, donc qui longe le fleuve sur des milliers de kilomètres, a permis aux bateaux de se rendre jusqu'au Grand Lac. Mais effectivement, les bateaux sont partis. Moi, je suis parti d'ici pour Le Havre sur un paquebot en 1964.
Ah oui.
C'est un des derniers qui a traversé, hein, le Carmania.
Vous êtes parti pourquoi ?
J'avais 7 ans et mes parents partaient en France. Donc,
ah oui, donc c'était le trajet. Ouais.
On est parti avec la famille, la voiture, armes et bagages et une semaine de traversée. Quelque chose d'extraordinaire.
Vous êtes comme votre père, Nicolas Reeves, Hubert Reeves, qui est dans une curiosité permanente, un émerveillement du monde aussi, non ? Vous êtes émerveillé par le monde ?
Je crois qu'il nous a légué ça, ses 4 enfants, tout à fait.
Ce que vous entendez derrière, ce sont les bruits de l'activité portuaire.
Et juste en face, mais vous avez ces immenses navires.
Ah oui, oh là là, le Venture, un immense bateau orange et blanc, avec... le haut du navire qui est bleu marine.
C'est un bateau laquier, c'est vraiment un transatlantique. C'est un bateau pour la haute mer.
Il est incroyable, on voit même l'hélice là qui dépasse avec...
On a des points de vue sur les bateaux ici qui sont extraordinaires. Et c'est très drôle parce que ça crée comme ces espèces d'architecture mouvante. Un jour on arrive, il y a cet immense bâtiment. Ouais. Le lendemain, il n'y a plus rien. Le jour après, il y a... Voilà. Et puis voilà, on voit le silo numéro 5.
Alors voilà, le silo numéro 5, qui est un endroit assez controversé, c'est vrai, Nicolas.
Il a plusieurs reprises, il a souvent été considéré comme un des bâtiments les plus laids de Montréal, et pourtant les architectes l'adorent.
Alors c'est vrai d'ailleurs que dans ce livre, Carnet de Montréal, vous avez choisi de parler du silo numéro 5. C'est un endroit important pour vous, ça a l'air important pour vous.
Eh bien, ça n'est pas tant le silo numéro 5 que tous les lieux qui l'entourent. Et on va aller marcher à côté de ce bateau-là qui est en fait un spa, un sauna, en fait, qui est très réputé. Et c'est ce qui me plaît beaucoup à Montréal, c'est qu'il y a ces petits endroits où d'un seul coup, on change d'univers.
Voilà, ce mastodonte sacré du patrimoine industriel canadien, protégé depuis 1996. Alors justement, dans le livre, il y a un texte qui évoque le silo, et c'est Catherine Pontimbert qui écrit « Sentinelle silencieuse du paysage montréalais, la silhouette impressionnante du silo numéro 5 est zébrée de rouille. Des cônes qui servaient à faire couler les grains me font penser à des sortes d'amphores romaines dégoulinantes d'une rouille patrimoniale, comme disait Le Corbusier, l'apôtre du modernisme évoqué dans son livre « Vers une architecture », le silo numéro 5 comme un exemple de l'architecture du futur. » Qu'est-ce qu'il y a dans le silo, Nicolas Reeves ?
Pour l'instant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'était un élévateur à grains, mais celui-ci est désaffecté depuis longtemps maintenant. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de trouver quoi en faire. Et qu'il y a toutes sortes de projets, à la fois artistiques, architecturaux, etc. Voilà, et là, on est sur le port. Vous voyez, on a ces objets qui rouillent. On a cette sculpture contemporaine avec des graffitis. Enfin, on est presque dans un décor de film.
Dans le livre, Nicolas, vous évoquez le français, la détérioration du français qui n'a pas pour seul ennemi l'anglais, mais oui, un ennemi intérieur.
Ah oui, tout à fait.
Qui est l'ennemi intérieur ?
Il y a beaucoup de gens qui revendiquent effectivement ici un parler français, mais le français qui est parlé autant à la radio que à la télévision ou que dans la vie de tous les jours est un français qui est très abîmé.
Et ça dépend de quelle émission.
Vous avez raison,
si je peux me permettre.
Mais il arrive même, moi j'ai des difficultés avec mes étudiants, je lis des textes dont la qualité d'expression est absolument déplorable. Il ne s'agit pas simplement d'une modification, d'une transformation progressive de la langue. Il s'agit de phrases qui deviennent presque des contresens, de mots qui sont pris les uns pour les autres. Et même souvent, on a des gens qui revendiquent l'idée de « moi je parle comme je parle et vous m'avez compris ». Puis à partir de là, effectivement, c'est très difficile. Et je crois qu'effectivement, il y a une reprise à faire. Maintenant, il y a une reprise en main justement à la fois de la culture littéraire, de la langue française ici, qui me semble absolument essentielle. D'autant plus qu'on est 7 millions dans un océan de 300 millions d'anglophones et hispanophones. Et donc, c'est le village gaulois ici.
C'est le village gaulois. Et vous pensez quand même que le Canada va conserver cette francophonie, cet aspect francophone qui existe depuis la création du pays, finalement, bien avant que l'on établisse le Canada il y a 150 ans?
Je ne sais pas, mais j'ai parfois l'impression que le Canada anglais tient plus à la présence française que certains Québécois. Parce que c'est ce qui fait la spécificité du Canada. C'est cette variété, oui, ce bilinguisme, cette ouverture. Puis moi, je suis ravi d'habiter dans un pays qui parle plusieurs langues. Parce qu'évidemment, au-delà du français et de l'anglais, il y a toutes les langues autochtones, les langues inuites et toutes les nations amérindiennes. Donc il y a cette richesse qui est créée par la complexité, qui est créée par ces rencontres de langage et dont le Canada profite trop peu. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être amené à se développer.
Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Reeves. Avec un bateau qui arrive là, juste devant nous, il y a le pont Jacques Cartier au fond et puis ce magnifique bateau, immense bateau marchand orange, la ville de Montréal sur notre gauche avec ses immeubles assez hauts. Merci beaucoup, Nicolas.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière.
Et les photos de ce reportage sont sur Facebook, page Emmanuel Kérad. Sachez que de nombreux ouvrages sont sortis à l'occasion des 375 ans de Montréal et du 150e anniversaire de la Constitution du Canada. Michael Jean, vous qui avez été gouverneur général du Canada de 2005 à 2010, vous le connaissez, ce silo numéro 5 qu'on a visité?
Écoutez,
avec Nicolas.
Moi, ça me tire les larmes, là, ce que je viens d'entendre depuis le début de cette émission, c'est-à-dire de Pétionville dans mon pays natal à Montréal. Ce sont vraiment des lieux pour moi d'ancrage et je vois toujours mes racines comme des rhizomes, au fait, hein, qui vont d'un lieu à l'autre et qui s'étendent. Et le silo numéro 5, je me suis vraiment mise sur le circuit de cette promenade parce que le silo numéro 5 m'a beaucoup fait rêver aussi. Je connais les projets On parle d'une sentinelle silencieuse, mais moi je le vois vraiment comme un phare qu'on devrait animer, qu'on devrait repenser, un espace qui pourrait abriter beaucoup, beaucoup d'événements. Et je me dis, en écoutant tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi est-ce que la francophonie ne s'en emparerait pas, au fait, pour en faire un phare?
Bien sûr,
un phare
la balle est dans votre camp d'ailleurs.
Oui, voilà.
On s'associera si vous voulez, vous avez notre soutien.
Il faudrait qu'on y pense quand même,
écoutez,
parce
on en parlera.
Que c'est vraiment formidable.
On en parlera très volontiers. Il y a Jérémy Laniel qui est à Montréal, encore là-bas lui, et qui a une question pour vous, Michaël Jean. Oui. Jérémy Laniel.
Oui, Michaël Jean, j'aimerais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre de Nicolas Reeves quand il parle de cette reprise de la langue française, de ce village gaulois qu'est le Québec. J'aimerais vous entendre sur ce rayonnement de la langue française en Amérique du Nord. D'abord, sur l'importance, selon vous, de ce rayonnement et de sa spécificité ici en Terre d'Amérique.
Moi, je dirais que vous rappeliez que j'ai été gouverneur général du Canada et j'ai eu cette grande chance vraiment de parcourir ce vaste territoire, mais sur toute son étendue. Et j'ai retrouvé cette espèce de volonté de résistance et de survie de la langue française partout, jusqu'au Yukon, jusque dans l'Arctique, mais avec une vraie ferveur et des fois en renversant l'impossible. Quoi. J'ai vu des communautés en situation ultra minoritaire, donc francophone, mais qui, même si la langue avait été perdue pour une génération, s'assurait que pour les enfants qui suivent, elle soit bien vivante et bien réelle et un patrimoine revitalisé.
Elle ne s'appauvrit pas avec l'anglais. Par exemple, Nicolas Reeves disait que certains s'accommodent avec la langue, la transforment un peu. Ça vous gêne,
ce que Nicolas Reeves souligne, c'est combien, au fait, on voit chez une nouvelle génération de Canadiens anglophones une meilleure compréhension de ce que représente la langue française dans leur héritage.
C'est-à-dire mais les Québécois transforment la langue aussi, c'est ce qu'il disait.
Mais la langue se transforme partout, constamment. Constamment.
La
langue est une chose
pas,
vivante. Ouais. Il faut suivre ses parcours, ses nouvelles résonances, ses nouvelles images. C'est inévitable. Mais je dirais que pour ce qui est de la francophonie, le fait même que l'Ontario ait joint l'espace francophone, c'est une façon aussi de réinvestir le Canada dans la francophonie.
La langue sublimée par le slam et la poésie. On en parle dans un instant avec une performance en direct de Julien Delmer et Nicolas Repac. Vous avez souhaité que l'on parle slam, Michaël Jean. Et du Canada, on part en Afrique avec la musique de Mamani Keïta et de Nicolas Repac. On vous fait voyager à travers le monde pour cette émission spéciale, prémisse de la Journée internationale de la francophonie qui se tiendra lundi 20 mars et de la Semaine de la langue française et de la francophonie qui commence ce week-end. Mamani Keïta avec la collaboration de Nicolas Repac, Sinikan sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent leur coup de gueule et leur coup de cœur. On commence dans la catégorie des romans contemporains avec Annick Dor et un coup de cœur, je crois, Annick.
Un coup de cœur, Emmanuel, tout à fait. Allons-y. Pour un roman belge. Oui. Donc pour un roman belge qui s'intitule En son absence et que l'on doit à Armel Job.
Ah oui.
Alors c'est un auteur qui, comme à son habitude, finalement nous offre une intrigue bien ficelée, où peut-être le plus important, c'est pas tellement la résolution de l'affaire que finalement l'état psychologique des personnages. Alors il scrute l'âme humaine sous toutes ses facettes et il nous montre bien comment la disparition d'une jeune fille fait rejaillir les tensions, les rancunes et les drames sous-jacents, donc du grand art. Moi j'avoue que je me fais chaque fois avoir, à partir du moment où je commence à lire, eh bien je ne peux plus m'arrêter.
C'est vrai, on est tous fans d'Armel Job dans cette équipe. En son absence, c'est le nouveau roman aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Annick. Au Canada, c'est Jérémy Lagniel. Coup de gueule ou coup de cœur, Jérémy ?
Coup de gueule. Savez-vous, Emmanuel, ce que détestent universellement les libraires, de Dakar à Montréal, de Bruxelles à Genève, en passant par la Martinique ?
Oula, je vous sens très énervé. Non, je ne vois pas, dites-moi.
Les bandons, les foutus bandeaux sur les livres. Vous savez, ceux qui se déchirent lorsqu'on les met dans une pile.
Mais j'adore les bandeaux, moi.
Ah non, non, mais faites-en une collection, je vous envoie les miens. Hein, ceux qui tombent avec le prix et le code-barre indiqué sur eux. Et que nous disent-ils, ces bandeaux? Absolument rien.
Ça dépend.
Ça dépend. À part ceux célébrant les prix, hein, les prix littéraires, ça, je les tolère. Hein, oui. Tolérer, je souligne le verbe choisir. Les autres sont d'une inutilité crasse. Un bandeau sur un livre de Joyce Carol Oates sur lequel on peut lire Joyce Carol Oates. Non, mais est-ce qu'on est des illettrés? Par chance, hein? Sinon, des citations creuses et commerciales d'auteurs qui s'autocongratulent. Et ça, c'est quand ce n'est pas la gueule de l'auteur lui-même, comme si ça nous était utile. Sans oublier des accroches du genre « Ils l'ont tous aimé, désiré. Elle, elle les a tous aimé. » Non, mais vraiment, à mort les bandeaux, voilà, c'est dit.
Calmez-vous. Julien Delmer a fait un bouquin, il y avait un bandeau avec sa gueule, comme vous dites. Hein? Je me souviens, c'est vrai, non?
Oui.
Oui.
Bon, c'est voilà, voilà. À y réfléchir, c'est pas
j'adore les bandeaux. Bon, bref, grand débat. Merci, Jérémy.
Plaisir.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Julien Delmer et Nicolas Repac sont dans la librairie francophone pour parler slam et littérature jeunesse. Michaël Jean est le grand témoin de cette émission aujourd'hui. Le programme a d'ailleurs été exceptionnellement préparé avec la participation de l'OIF. Julien, commençons par l'ourson Biloute, si vous voulez bien. On vous connaît donc pour vos romans où il y a votre gueule, Georgia et Frère Désastre. Vous étiez notre révélation du printemps 2016. Et là, vous publiez votre premier livre pour la jeunesse. Vous allez à contre-courant des contes traditionnels et vous attaquez frontalement le conte, la princesse, la sorcière. C'est trop gnangnan pour notre époque.
Alors en tout cas, c'est trop gnangnan pour l'ourson Biloute, qui est le héros du livre, qui lui aime les histoires de soucoupes volantes, de rayons laser, et qui est plutôt dans une mythologie à la Star Wars. Ouais. Donc lui, effectivement, quand le papa de son ami Kevin lui lit l'histoire de princesse, il s'ennuie terriblement, et il attend qu'une chose, c'est voilà, de pouvoir s'évader au niveau des étoiles. Ouais. Quoi. Donc moi, c'était surtout une occasion de rire, de m'amuser. Effectivement, je pense qu'il y a des mythes qui ont vécu. Je pense qu'aujourd'hui, la princesse et le cheval blanc, si on le revisite pas un peu, je pense que c'est un petit minimum éculé.
Ça protège l'enfant,
ça protège l'enfant. Après, je pense qu'on peut tout à fait en jouer, les adapter, ouais, les faire vivre. Et c'est un peu ce que j'avais envie. Moi, c'était pas du tout un coup de pied dans la mare. C'était aussi de constater quand même que les jeunes générations sont tout autant portées sur justement les télescopes, les soucoupes qu'ils avaient pu l'être sur les princesses. Donc, c'est s'adapter, tout simplement.
D'accord. Bon, votre ourson Biloute, il s'émancipe. Oui. Il quitte le nid douillet de Kevin, son petit propriétaire. Il va suivre comme ça une aventure intersidérante, un peu comme un cauchemar.
Ben, en fait, c'est la quatrième dimension, ni plus ni moins. Le speech, pour le dire, c'est que le vilain Blastador, le chef de la galaxie fantôme, a décidé d'envahir la Terre avec une arme redoutable. Ça se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, faut le préciser.
Oui, oui, oui.
La sauce Z. Qu'est-ce que la sauce Z? C'est une sauce bleue destinée à empoisonner les frites et ils deviennent soumis aux extraterrestres.
Voilà.
Donc, évidemment, intolérable pour l'ourson Bilout, qui adore les frites plus que tout, puis qui tient à son indépendance d'esprit. Donc, il s'allie avec un rocker au grand cœur qui s'appelle Lemmy.
Voilà.
Donc, l'image, évidemment, à Lemmy de Motorhead, le bassiste chanteur.
Et Janis Joplin.
Et Janis Joplin, sa sœur. Et donc, montés sur des Harley Davidson, ils arrivent à mettre en péril l'armée extraterrestre. Enfin, ils y arrivent. C'est 3 points de suspension puisque c'est une série. Donc, il y aura un tome 2.
D'accord.
Et donc, on verra.
Et à la fin du livre, justement, puisque vous parlez de Lemmy, il y a la bande-son, la BO du livre, comme on le fait d'ailleurs dans l'émission chaque semaine. C'est parfait, vous écoutez bien la librairie francophone, avec 5 titres à écouter. Et ça donne ça, par exemple. Motorhead.
Ace of Spades, grand classique, 1980, fabuleux.
Oui,
il y en a d'autres.
Non, il n'y en a pas d'autres, on va regarder que celui-là. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a 5 comme ça qui sont un peu... Alors non seulement ce n'est pas francophone, Julien Delmer, mais en plus c'est un peu rude pour les gamins, non?
Alors ça c'est vraiment la révélation que j'ai eue. Oh, je vais devoir l'avouer publiquement, j'ai un enfant. Donc j'ai pu tester aussi. Et il adore justement les disques qu'il n'est pas censé écouter. Il adore les Stooges, parce qu'il sait qu'il y a une sorte d'interdit avec le rock'n'roll puis radio. Mm-hmm. Et en fait l'idée vraiment de base c'était comment transmettre. Moi c'est vraiment un souci de transmission. J'adore Jimi Hendrix, j'adore Janis Joplin, j'adore Motorhead. Et ben voilà, comment à un moment on peut partager ces musiques qui sont pas du tout même la musique de ma jeunesse, c'est plutôt la musique de la jeunesse de mes parents, Joplin, les Doors et tout ça.
Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein.
Ah oui.
Allons-y, Serge, comment
Motorhead, c'est pas mal. Hein.
Comment, Michael Jean?
J'ai dit, on a envie de sauter sur place.
Ah oui, ça vous plaît.
Ah oui, moi j'aime bien.
Ah oui, d'accord. Bon, vous utilisez des expressions ch'ti, Julien Delmer.
Parce que c'est vraiment ancré dans le Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, vous faites découvrir aux enfants un nouveau langage, comme si on inventait des mots pour l'histoire, sauf que ces mots existent. Et ça leur ouvre l'esprit, sans doute, sur d'autres cultures, c'est ça votre objectif?
Voilà, sur les cultures marginales, comme celle du Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France. Voilà, mais il y a de la francophonie, par exemple, une expression comme Godferdom. Godferdom, c'est une expression belge. Mm-hmm. Je fais l'accent, on m'en excusera les libraires. Voilà, ce qui signifie, en gros, c'est une expression qui exprime la surprise. Par exemple, le terme draché. Draché, ça veut dire pleuvoir. Et puis, c'est beaucoup lié quand même à l'alimentation et à la gastronomie.
Et
on apprend la recette de la carbonade, de la fricadelle, etc. Donc, c'est vraiment un concentré de culture générale et de rock'n'roll attitude, celui.
On va voir si ça passe du côté de nos libraires, Julien Delmer. Je ne suis pas si sûr que ça. L'ourson Bilout a été lu par la Suisse et la Belgique. Bah tiens, la Belgique, allons-y. Annick Dor.
Ah ben, Rotfordom, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Non, il y a de jolies trouvailles. Moi j'ai trouvé ça drôle, fantasque. Ça m'a fait un peu penser à ces albums justement futuristes des années 70. Moi j'ai plongé vraiment coréable dans les aventures de ces cyborgs à roulettes et puis de cette magnifique et belle Janis, cette inénarrable motarde, sexy, je trouve que ça a appuyé le côté quand même un peu décalé de l'album, donc oui, moi j'ai beaucoup aimé.
Très bien, en Suisse, Laura Sanchez.
Oui, alors moi je vous soupçonne de vous être fait plaisir d'abord à vous en créant cet univers, et j'ai l'impression que tout enfant qui se lance dans ce récit a clairement besoin de l'aide de soit son papa rocker, soit sa maman fan de cinéma fantastique pour s'en sortir. Mais comme toujours en littérature jeunesse, lorsqu'une histoire est racontée avec plaisir, elle rencontre toujours son public.
Et il est d'accord, Julien Delmer.
Absolument.
Michael Jean, quels sont les projets de l'OIF pour initier les jeunes à la littérature?
Je dirais déjà de célébrer le retour des jeunes au plaisir d'écrire. Mmh. Et comme on a envie de consacrer une partie de cette émission au phénomène de la poésie urbaine, du slam, c'est très net. C'est-à-dire qu'on voit de ces jeunes qui aiment jouer avec les mots, qui reviennent à l'écriture, et ça c'est formidable. Et revenir à l'écriture, c'est forcément aussi revenir au texte et revenir à la lecture. Parce que beaucoup de ces jeunes, dans cette belle écriture franche, sans compromis qui est la leur, reviennent aussi à des textes qui ont été de cette même humeur à une autre époque, et s'inscrivent dans la continuité de ça.
Et ça dans le monde entier du coup.
Dans le monde
c'est
entier.
C'est universel.
Et c'est universel, et c'est ça qui est vraiment formidable.
Mmh. Alors le slam, justement, avec Nicolas Repac et Julien Delmer, car Julien, vous êtes un slameur aussi, vous n'êtes n'êtes pas qu'auteur, vous avez pendant de nombreuses années fait des prestations sur des scènes comme ça, des lectures de poésie. Le slam est né en 1984 dans un bar de Chicago. C'est le jeune écrivain Mark Smith qui imagine un jour un jeu scénique qui vise à rendre populaire la poésie et surtout à la rendre accessible à tous. Alors tous les styles, tous les milieux sociaux se retrouvent. C'est plus fédérateur que le hip-hop ?
Alors, ce qui est très différent du hip-hop, c'est qu'au départ, effectivement, le slam est une pratique amateur. C'est-à-dire qu'on ne demande à aucun participant s'il a déjà sorti un album, s'il a fait des études dans une école de théâtre.
Donc, on se lance comme ça.
Voilà. Ouais. C'est vraiment cette grande transversalité qui est chouette dans le slam.
Alors, Nicolas Repac, vous êtes venu avec cet instrument, le oudou. Vous pouvez le décrire ? Tiens, il est très étrange.
Ça ressemble lointainement à une cruche,
ouais.
En fait. J'avais un oudou il y a quelques années qui était en fait en terre cuite. Au départ, c'était un instrument ancien. Voilà, mais seulement je l'ai explosé sur scène en fait. J'en ai joué, j'ai tapé une fois et
boum.
Ouais. Il a été réduit en 1000 morceaux. Donc j'ai acheté celui-là qui est un peu plus
C'est un instrument du Niger à l'origine.
Alors oui, enfin c'est ce que j'ai appris chez vous que c'était du Niger parce que pour moi, c'est plus exotique que ça, ça vient de Pigalle. Je l'ai acheté à Pigalle.
Vous racontez les coulisses de l'émission. Oui, je vous ai dit que ça venait du Niger parce que voilà. Je dis racontez-nous hein, ça vient du Niger. Je me dis, ah bon.
Non, je sais pas, bah, je sais pas d'où ça vient justement.
Ça vient du Niger. Bon, vous allez un texte écrit et lu par Julien Delmer dans les conditions du direct, en plateau, comme ça, devant Michael Jean, Leïla Sebar et nous.
Souvenir d'avant l'aurore, quand je n'étais encore qu'une pluie de mystère, un frisson sur la terre, un fragment d'éléments, un amas de sentiments pas vraiment définis, une parcelle d'infini, le tambour d'avant ma vie, celui qui battait au rythme d'un cœur inconnu. J'ai été nu dans la tiédeur de la nuit, je nageais sur un nuage de suie, j'essayais de me frayer un passage vers le jour, vers le front du tambour, mais le compte à rebours m'a poussé jusqu'au bord d'un soleil qui brûlait mes oreilles et qui m'éblouissait comme un joyau vermeil. À présent j'entends le tambour qui rugit sur la terre, le balafon de feu qui bat sous mes paupières, la lueur de l'aurore, la chaleur de l'effort, le fouet qui dévore, la chaleur carnivore, le coton emballé, le rhum étranglé, les hommes empilés au fond d'une cale pour une escale au jardin des supplices, un grand champ de cicatrices, les traces de mon passé se finissent dans une flamme. Flashback, le vent claque sur ma nuque, le souvenir de l'Afrique qui revient en syncope sous mon crâne, comme une brûlure de clope, comme le jus de la canne dans la bouche du cyclope. Rouge ma mémoire au bout du petit matin, rouge mon espoir dans les brasiers du destin, rouge la boue qui me lave de moi-même, rouge le sourire de la femme que j'aime, rouge le parfum de la foule quand je me faufile et que mes pas foule le sol, rouge la flamme de la brindille, le filet qui s'étiole et ma fierté qui vole à nouveau sur la ville, rouge, rouge, rouge.
C'est magnifique. Hein.
Magnifique. Julien Delmer, Nicolas Repac, avec cet instrument, le oudou, et ce texte de Julien Delmer. Michael Jean, vous êtes conquise.
Voilà. Chaque fois, ça m'emporte parce que j'entends ce texte et j'entends à la fois, oui, pourquoi pas Rimbaud, Verlaine, j'entends Césaire, j'entends Senghor, j'entends, je vous entends aussi. Ce retour à la poésie témoigne aussi d'une quête, d'une envie de produire du sens et de rejoindre l'autre. Et c'est enivrant. Moi, j'adore voir des jeunes qui ont 12 ans, qui ont 15 ans, qui poursuivent cette aventure des mots. Il faut s'en réjouir, il faut se dire que c'est un signe là.
C'est la tradition orale qui est très répandue en Afrique d'ailleurs.
Hein. Oui, oui, voilà, mais que cette chose-là se répande sur l'ensemble de la planète. Ouais, vous irez au Kazakhstan, vous irez dans l'Arctique, vous êtes au Niger, vous êtes au Sénégal, ici à Paris, à Montréal, et c'est ça. Il y a cette parole qui permet aux jeunes de se rejoindre et de créer du lien. C'est magnifique.
Merci beaucoup Julien Delmer. On va terminer avec un hommage à Léopold Sédar Senghor, car c'est presque la journée internationale de la francophonie. C'est une émission spéciale à cette occasion. Et Julien a choisi un texte, hein. C'est vous qui nous l'avez proposé, toujours accompagné par Nicolas Repac.
Homme sinistre, bec d'acier,
Perceur de joie, j'ai des armes sûres. Mes paroles de silex dures et tranchantes te frapperont. Ma danse et mon rire, dynamite délirante, éclateront comme des bombes. Je t'abattrai, corbeau noir, perceur de tam-tam, tueur de vie. Camarade, je veux rompre ma peau noire et qu'elle me suive. Je veux traverser ton abord, rêche tes flèches gouailleuses. Camarade, je veux par-delà ta peau aller, érailler et tes mains plonger jusqu'à ton cœur, jusqu'à tes entrailles sensibles. Calme jardin, grave jardin, jardin aux yeux baissés au soir pour la nuit. Peines et rumeurs, toutes les angoisses bruissantes de la ville arrivent jusqu'à moi, glissant sur les toits lisses, arrivent à la fenêtre, penchées, tamisées par feuilles menues et tendres et pensives, mains blanches, gestes délicats, gestes apaisants, mais l'appel du tam-tam bondissant par monts et continents. Qui l'apaisera mon cœur à l'appel du tam-tam, bondissant, véhément, lancinant.
Julien Delmer, Nicolas Repac, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci pour ce cadeau. Merci beaucoup, merci. Nicolas. Vous avez de nombreux albums. Michael Jean vous applaudit. De nombreux albums qu'il faut découvrir. Et notamment Black Box, hein, où vous mélangez comme ça toutes les cultures du monde. C'est absolument sublime. Merci.
Merci. Merci.
Dans cette plus grande librairie du monde. On part tout de suite en Suisse avec Laura Sanchez dans le rayon des BD pour un coup de gueule ou un coup de cœur, Laura ?
Eh bien, un coup de cœur aujourd'hui pour un livre où on vous raconte l'histoire de la vie. Alors, il en existe déjà, vous allez me dire. Mais là, c'est en bande dessinée que ça se passe. Donc, c'est Jeunesse BD. Grâce à Jean-Baptiste de Panafieux, qui est un scientifique aguerri, entre autres, à la vulgarisation pour les jeunes, et Adrienne Barman, chère illustratrice romande, qui a l'art de donner un air joyeux au moindre diplodocus et vous rendrait sympathique une pluie de météorites. Donc, c'est à lire d'une traite ou alors à picorer. C'est l'histoire de la vie en BD chez Casterman.
Très bien. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, Laura. Grégoire Courtois, un coup de cœur très rapide.
Ouais, coup de cœur énorme pour un roman qui s'appelle Récit d'un avocat d'Antoine Bréa. C'est un roman qui paraît dans la nouvelle collection Cadre Noir des éditions du Seuil, puisque Seuil Policier devient Cadre Noir. Donc, c'est vraiment un vrai roman noir. C'est très court, c'est percutant, clinique. Ça parle d'un fait divers sordide qui s'est passé il y a quelques années. Un avocat se retrouve pris dans cette affaire. Il y a un suspense, mais il y a surtout une grande écriture avec ce grand narrateur maladif. Bréa, Récit d'un avocat.
Et c'est aux éditions du Seuil pour l'Europe et au Cartanier pour le Canada. Merci beaucoup Grégoire. Nous serons au Salon du Livre de Paris la semaine prochaine pour une émission spéciale en public. Enregistrement exceptionnel vendredi 24 mars à 15h15 avec les auteurs qui font l'événement sur place. Il y aura des surprises et vous êtes bien sûr tous les bienvenus. On compte sur vous. La librairie francophone avec Michael Jean, Nicolas Reeves, Julien Delmer, Nicolas Repac et Leïla Sebar. Bonjour Leïla Sebar.
Bonjour.
Vous êtes une grande voix de la littérature algérienne et plus largement francophone. Votre nouveau recueil de nouvelles, L'Orient est rouge et sans concession. Vous évoquez la condition des femmes en Orient avec la menace terroriste, la violence qui salit tout, qui détruit tout. Vous semblez être vraiment effrayée. Quel est le rempart face au fondamentalisme ?
C'est la réflexion avec d'autres, d'une génération à l'autre. Je pense que la littérature peut aider à réfléchir. Et ces nouvelles que j'ai écrites m'ont aidé moi-même à réfléchir et à comprendre.
On va réfléchir tous ensemble dans un instant. Voici la chanteuse d'origine libanaise, Yasmine Hamdam. Actrice, compositrice et interprète, vous allez entendre une voix majeure de la musique électro-orientale. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Thank you.
La chanteuse libanaise Yasmine Hamdan avec Labaden sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Leïla Sebar est dans la librairie pour L'Orient est rouge, paru aux éditions Elisade. Alors Leïla, dans plusieurs nouvelles, vous racontez le parcours de ces jeunes filles qui, du jour au lendemain, s'enferment dans leur chambre et se radicalisent seules, soit sur Internet, soit en faisant une rencontre malheureuse. Comment est-ce possible ça? Comment peut-on ne pas voir sa fille se radicaliser?
Parce qu'elle se cache. Dire les secrets peuvent être des secrets. Mmh. Et dans ces cas-là, on est dans le secret jusqu'à la mort. Donc, on n'a pas à s'en étonner.
Ça ne vous étonne pas, vous?
Non.
Non? Vous non, trouvez non. ça logique?
Non, je ne dis pas que ce soit logique, mais ça ne m'étonne pas que des jeunes filles ou des jeunes gens, d'ailleurs, choisissent d'être dans un autre corps, dans une autre vie, dans un autre pays, dans une autre langue.
Pourquoi ça ne vous étonne pas?
Parce que je pense que à 15, 16, 17 ans, on se révolte. On est dans la rébellion, l'insurrection, et les modes qu'on peut choisir sont très divers.
Enfin, il y a d'autres moyens de se rebeller que d'aller en Syrie, que d'un coup porter le voile intégral, comme dans vos nouvelles.
C'est leur choix.
C'est leur choix.
Oui, oui, c'est leur choix.
Alors, c'est leur choix. C'est étonnant ce discours, vous m'étonnez, Leïla Sebar, parce que tout ce que vous écrivez, c'est vraiment à charge. C'est vous dénoncer cette violence. Tout est sali par ces minables barbares qu'on appelle terroristes. Et là, vous semblez dire que finalement, c'est presque pas normal, mais que, voilà, ça peut arriver, on
non,
peut se radicaliser.
Je ne dis pas que ce soit normal. Personne ne dit que c'est normal, le terrorisme. Personne. Mais ces jeunes gens font des choix qui nous étonnent, parce que ces choix ne seraient pas les nôtres. Mmh. Mais quand on est en révolte, les révolutions, vous savez ce que ça a été, les révolutions. Vous savez ce qu'elles peuvent être. Mmh. Vous savez ce que, les effets qu'elles peuvent produire. Je crois qu'on est dans cette situation.
Ce n'est pas une révolution, Leïla Sebar, si je peux me permettre.
Si,
non, ce n'est pas une révolution.
Pour ces jeunes gens et ces jeunes filles, c'est révolutionnaire. Pour eux, c'est révolutionnaire.
Est-ce que c'est révolutionnaire de détruire Palmyre, puisqu'il y a une nouvelle, hein, d'ailleurs, dans votre recueil?
Ils ne vont pas, avec... ces jeunes gens et ces jeunes filles dont je parle, ne vont pas là-bas pour détruire Palmyre.
Oui.
Non. Ils vont là-bas pour donner du sens à leur vie. Et ils sont dans un état d'exaltation et de ferveur tel qu'ils ne voient pas immédiatement les manipulations.
Alors ça, vous le dénoncez, hein, parce qu'à Palmyre, justement, il y a cette mère désœuvrée qui fait le bilan de l'éducation de ses fils, dont l'un est passé du côté de Daesh, et elle est seule comme ça au milieu des ruines antiques. Ça sonne presque comme une fin du monde, cette histoire-là.
Oui, oui.
C'est la fin du monde.
Oui, détruire Palmyre, c'est vouloir une fin du monde, une apocalypse.
Et
bien
des
sûr.
Filles aussi.
Bien sûr.
Michael Jean.
Je pense que ce que Leïla Sebar décrit à sa façon... à voir avec beaucoup de solitude, qui se retrouve prise dans les filets de ceux qui savent très bien comment exploiter ces sentiments de détresse et ce besoin de se dépasser dans une sorte d'impasse. Et ce qui se passe, c'est que c'est justement ça qui leur est proposé à ces jeunes embrigadés, c'est comment réussir leur mort, au fait. Il y a quelque chose qui est détecté, qui est repéré, et qui correspond à une pulsion de mort. Et je trouve que ce qu'il faut, au fait, face à cela, c'est peut-être accompagner davantage des jeunes dans la vie. Or, il se trouve que dans leur solitude, il y a ce drame de ne trouver pas grand monde pour les accompagner.
Sauf des personnes qui les embrigadent.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Donc,
dans
c'est ça,
la
le piège.
Réussite de leur vie. C'est ça le piège. Et c'est dramatique, quoi.
Ces jeunes gens et ces jeunes filles pensent qu'ils ont reçu la grâce divine. Ils ne sont pas dans un état qui est le nôtre, dans le quotidien, un état routinier, ennuyeux. Et si on veut changer de vie, de corps, si on veut changer le monde, il faut qu'on soit dans un état autre.
Hein? Il y en a plein d'autres, des états.
Mais ce sur quoi on les entraîne, c'est pas du tout vers la vie, c'est vers la mort. Des pays de l'espace francophone, comme du reste du monde, sont pris d'assaut par ceux qui veulent dégager les circuits de leur trafic. Moi, je les appelle toujours ainsi. Ce sont des organisations criminelles de tous les trafics, trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains, qui essaient de dégager les circuits de leur trafic en déstabilisant des pays, en les isolant, et qui ont besoin, dans cette démarche, de recruter et qui sacrifient malheureusement, nombre de jeunes sur ce sombre dessein. Et c'est terrible.
Si on réduit à cela ces engagements, l'engagement de ces jeunes gens, on ne les comprendra jamais. Et on ne fera jamais avec eux un autre chemin. Je crois qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas dans la criminalité eux-mêmes. Ils ne sont pas. Ils ne vont pas pour tuer. Ils ne vont pas pour forcément prendre des armes. Non, non. C'est une sorte de mission mystique.
Oui, mais qui entraîne la mort et qui entraîne la prise d'armes.
Les grands mystiques sont dans une attitude de mortifère aussi.
On va voir du côté des libraires qui ont lu votre recueil de nouvelles ce qu'ils ont pensé de votre livre avec le multiplex Suisse, France ou Belgique. Vous préférez commencer par qui, Leïla? Ça vous est égal, ok, allons-y. Grégoire, vous êtes en face, allez-y.
Moi, je partage effectivement l'idée que c'est une lecture qui est assez éprouvante, hein, de lire ces nouvelles qui sont toutes effectivement très noires et très pessimistes dans tout ce que ça peut porter de messages ou d'absence de messages, justement. Et il y a un personnage qui est en plus, qui est toujours Dieu. Et ce personnage de Dieu qui va toujours oppresser, qui va toujours forcer à avoir une attitude particulière, même dans les moins fanatiques de vos personnages. Et moi, ça m'a beaucoup frappé dans ce recueil.
Laura Sanchez, en Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, oui, moi je rejoins Grégoire. C'est vrai qu'il a fallu beaucoup de courage pour écrire ces nouvelles, mais je vous promets qu'il en faut aussi pour les lire. Mais c'est très important que de telles histoires nous soient racontées, parce que ça donne accès aux détails, aux nuances et à des trajectoires de vie singulières.
Annick Dor, en Belgique, qu'en pensez-vous?
Oui, je partage un peu l'avis de mes confrères. Là, c'est vrai qu'on ne ressort pas indemne de ce recueil. Hein. Certaines de ces nouvelles sont vraiment terribles. Et puis, moi, ce que j'ai quand même trouvé très fort, c'est qu'on voit en filigrane une forme de djihad sexuel. Les femmes, dans chacune de ces nouvelles, elles sont toutes soit violées, soit torturées, soit séquestrées. Et ça fait vraiment très froid dans le dos. On a l'impression qu'il n'y a pas un homme pour en racheter un autre et un peu aider les femmes. Quoi.
Leïla Sebar, dans votre livre L'Orient est rouge, paru aux éditions Elizade, il y a une nouvelle qui a pour titre L'homme qui pleure. Vous parlez des chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Il y a ce prêtre qui répète que l'exil est une trahison. Il préfère rester sur place, il préfère mourir sur cette terre sainte. L'exil est une trahison?
Moi, j'ai entendu souvent des hommes d'église d'Orient qui disaient très fermement qu'il ne fallait pas partir à leurs fidèles.
D'accord, je vous pose une question.
Ils doivent rester là.
Oui, l'exil, est-ce une trahison, comme vous le décrivez tout au long de cette nouvelle. Est-ce que quelqu'un qui est contraint de fuir son pays par la violence, par la menace, est-ce qu'il est dans la trahison quand il s'enfuit?
On peut penser, certains pensent qu'ils sont dans la trahison, d'autres non. Ils sont, on les force à partir.
Et vous?
Bien sûr, moi.
Vous, qu'en pensez-vous?
Moi, je suis perplexe. Je suis perplexe. Moi, je comprends quand l'homme d'église dont on parle dit à ses fidèles: restez là, battez-vous, chez vous,
quitte
pour votre
mourir,
terre.
Quitte à mourir.
Quitte à mourir, oui. Oui.
Très bien. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Et c'est Jérémy Laniel qui est au Canada. À vous de conclure, Jérémy.
Oui, il y a quelque chose de très concret dans cet univers de Sebar. Ces nouvelles sont peuplées d'odeurs, d'un temps présent qui semble pourtant, et malheureusement, je dirais millénaire. Les portraits de ces femmes dans le texte de Sebar ne sont pas que ça non plus. Hein. Ils répondent à des mécaniques narratives efficaces qui ne visent pas toujours la chute. Donc, du côté littéraire, là, ça nous laisse parfois dans la brume. Et ça, c'est un grand plaisir, malgré que c'est difficile à lire tout au long de la lecture.
Voilà, un ouvrage qui va faire réagir et vos propos, évidemment, Leïla Sebar, qui n'engage que vous, vont faire réagir aussi. C'est un point de vue qui va faire réagir. Voilà, c'est le débat culturel. Merci beaucoup, Leïla Sebar. L'Orient est rouge, paru aux éditions Elizade. Merci, Michaël Jean, d'avoir préparé cette émission avec nous, d'y avoir participé. Vous vouliez parler des femmes, du slam, de la jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la francophonie qui se tiendra donc le 20 mars et toute la semaine est consacrée à la francophonie entre le 20 et le 24-25 mars.
La place que l'on fera aussi au Salon du Livre auprès des 5 continents, je pense que c'est important. Et j'encourage beaucoup aussi les maisons d'édition du Sud à soumettre davantage d'auteurs parce que c'est vraiment un prix qui permet de lancer des auteurs et leurs œuvres de manière assez formidable et assez unique. C'est une grande chance.
On soutient ce prix, vous le savez, le prix des 5 continents. Chaque année, on en parle ici. Merci beaucoup, Michaël Jean. D'ailleurs, il y a un reportage, un documentaire sur votre parcours qui sera diffusé sur TV5 Monde le 22 mars à 22h. Merci à vous, à bientôt.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec le groupe tahitien Vaiteani. Interprété par le groupe tahitien Vaiteani, à retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Florent Beauvallet, Djoubaka à la prog musicale. Merci Julien Delmer, Nicolas Repac, Leïla Sebar, Michaël Jean. À très bientôt. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Putain en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc au Salon du Livre de Paris en public, enregistrement vendredi à 15h15 avec un plateau éclectique qui va vous faire voyager une nouvelle fois. On vous attend nombreux. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Salut.